Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 16 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Tout d'abord les titres. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, bloqué chez lui, tire de gaz lacrymogène sur des députés. Au Mali, l'influenceuse Rokia Doumbia écrouée après avoir dénoncé ce qu'elle a appelé l'échec de la junte au pouvoir. Au Togo, deux journalistes critiques du pouvoir condamnés par contumace. Au Maroc, des djihadistes présumés arrêtés après le meurtre d'un policier. Au Burkina Faso, retour de 64 ressortissants rapatriés de Tunisie suite aux violences consécutives à un récent discours du président Kais Saied. Ce sera avec Lamine Traoré à Ouagadougou. En Éthiopie, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonce une aide humanitaire de 331 millions de dollars pour les populations touchées par les violences et la sécheresse. Le Malawi en appelle à l'aide internationale face à une tragédie causée par le cyclone Freddy. Les États-Unis continueront à voler là où le permet le droit international, dit Washington à Moscou. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. C'est Ousmane Sonko devant la justice ce jeudi dans un procès qui l'oppose à un ministre qui l'accuse de diffamation. Hier, il est resté bloqué chez lui par les forces de sécurité et des affrontements ont éclaté près de son domicile à Abdourahmandia.
Les autorités ont aussi interdit une manifestation censée mobiliser hier les supporters d'Ousmane Sonko à Dakar à la veille de ce procès dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle dans un an. Les forces de l'ordre ont dressé des barrages dans les rues menant au domicile de M. Sonko. Un cordon de policiers en tenue anti-émeute a interdit le passage de son véhicule. Après un bref échange, M. Sonko est rentré chez lui. Ses partisans dénoncent ce qu'ils considèrent comme une résidence surveillée illégale. Son allié, le député Guy Marius Sagna, et d'autres parlementaires ont essayé de lui rendre visite. Les forces de sécurité ont tiré de nombreux lacrymogènes sur les élus ainsi que sur les journalistes qui les accompagnaient. M. Sagna a été touché à la cuisse droite et des images publiées ensuite sur les réseaux sociaux le montrent allongé sur une clinique s'exprimant sur les événements après avoir reçu des soins. L'opposition avait appelé à des manifestations sur tout le territoire hier mercredi pour dénoncer ce qui est à ses yeux une instrumentalisation de la justice et des arrestations arbitraires.
Au Mali, l'influenceuse Rokia Doumbia a été écrouée mercredi après s'en être prise durement aux militaires au pouvoir et à leur échec, selon elle, face à l'insécurité et à l'inflation, a indiqué à l'AFP le parquet de la commune 4 de Bamako. Lundi, une autre personnalité, l'animateur de radio-télévision Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat, a été placé sous mandat de dépôt après avoir déclaré qu'un ex-premier ministre mort en détention il y a un an avait été assassiné. Et au Togo, deux journalistes critiques du pouvoir ont été condamnés mercredi à 3 ans de prison ferme et à 3 millions de francs CFA d'amende chacun par le tribunal de grande instance de Lomé, notamment pour outrage à l'autorité selon leur avocat. Ferdinand Haïté et Koku Kouonou, connus sous le nom d'Isidore Kouonou, respectivement directeur de publication et rédacteur en chef du bi-hebdomadaire L'Alternative, sont mis en examen depuis décembre 2021 pour outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers sur les réseaux sociaux. Ces poursuites font suite aux plaintes de deux ministres pour des propos tenus dans une émission diffusée sur YouTube. Trois Marocains affiliés au groupe djihadiste État islamique ont été arrêtés hier, selon la police. Ils sont soupçonnés d'avoir assassiné un policier dont le corps calciné a été retrouvé début mars près de Casablanca. Les détails avec Nanit Talani.
Les deux principaux suspects ont été appréhendés à la suite d'opérations sécuritaires à Casablanca et dans la région de Sidi Razem, près de Fès, dans le nord, selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Un troisième homme a été interpellé lors d'une opération ultérieure à Casablanca, précise la même source. Ils ont été placés en garde à vue et l'enquête a été confiée au Bureau central d'investigation judiciaire chargé de la lutte antiterroriste. D'après les premiers éléments de l'enquête, les trois hommes avaient récemment prêté allégeance à l'État islamique et étaient déterminés à s'engager dans un projet terroriste en tuant un policier. Le cadavre carbonisé et mutilé d'un policier, un agent de la circulation tué à l'arme blanche, avait été découvert le 2 mars dans une zone rurale de la région de Casablanca. Selon la DGSN, les trois suspects avaient l'intention de lui voler son arme de service pour cambrioler une agence bancaire.
Le secrétaire d'État américain annonce une aide humanitaire de 331 millions de dollars à l'Éthiopie. Les fonds seront destinés notamment aux personnes touchées par le conflit dans la région du Tigré, selon Anthony Blinken, actuellement en visite dans le pays. Alexandrine Ollognon.
Ces fonds vont fournir un soutien vital à ceux touchés et déplacés par le conflit, la sécheresse et l'insécurité alimentaire en Éthiopie, a souligné Anthony Blinken en visitant un centre logistique de l'ONU à Addis Abeba. Il a eu dans la matinée d'hier un entretien avec le Premier ministre Abiy Ahmed sur l'importance d'établir les responsabilités des atrocités perpétrées par toutes les parties durant le conflit au Tigré et de la nécessité d'un processus de justice de transition. Le secrétaire d'État américain, le plus haut responsable américain, a visité l'Éthiopie depuis novembre 2020, date du début de la guerre entre le gouvernement fédéral et les autorités rebelles de cette région du nord de l'Éthiopie. Pour la suite de son séjour en Afrique, Anthony Blinken se rendra au Niger. Il intervient également sur fond d'efforts du président Joe Biden pour contrer les influences croissantes sur le continent de la Chine et plus récemment de la Russie.
Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, on a appelé mercredi à l'aide internationale pour faire face aux ravages du cyclone Freddy, une tragédie nationale qui a fait au moins 225 morts dans ce pays d'Afrique australe. Il a décrété 2 semaines de deuil national avec les drapeaux mis en berne pendant la première semaine. Ce cyclone est le 3e en 13 mois à frapper notre pays, une preuve des réalités du changement climatique, a-t-il estimé lors d'un discours télévisé. Le cyclone a également frappé le Mozambique voisin, où il a fait 63 morts, selon l'Institut national pour la gestion des catastrophes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a affirmé hier que les États-Unis vont continuer à voler là où le permet le droit international. Cette déclaration a été faite au lendemain de l'interception d'un drone américain au-dessus de la mer Noire par des avions russes. Eric Manirakidza.
Lloyd Austin a dit que son pays prenait tout potentiel d'escalade très au sérieux. « Je viens de parler au téléphone avec mon homologue russe, le ministre Sergueï Choïgou. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il est important que les grandes puissances soient des modèles de transparence et de communication », a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Pour lui, il est important de garder les canaux de communication ouverts en vue de prévenir une erreur de calcul à l'avenir. La liberté de navigation dans l'espace aérien international doit être respectée et les actions d'intimidation ne sont pas acceptables, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères. Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a dit que Washington va examiner les données du drone pour établir les faits exacts et que lui-même avait l'intention de parler à son homologue russe. Nous avons un appel de prévu. Voyons si cela se fait, a-t-il affirmé lors de la même conférence de presse. La Russie, de son côté, a annoncé qu'elle va s'efforcer de retrouver l'appareil et de le récupérer pour en analyser les équipements d'observation très perfectionnés. Un porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, avait précédemment déclaré sur CNN que les États-Unis avaient pris des mesures pour faire en sorte que le drone ou ses équipements ne puisse tomber entre des mains ennemies.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a fait mercredi un éloge prudent de la médiation de la Chine, rivale des États-Unis dans le rapprochement entre l'Arabie saoudite, allié historique de Washington, et l'Iran, ennemi juré des États-Unis depuis la révolution islamique de 1979. Il estime cette médiation bénéfique pour la région. De notre point de vue, tout ce qui peut contribuer à réduire les tensions, éviter un conflit et dissuader l'Iran d'actions dangereuses et déstabilisatrices est une bonne chose, a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse hier à Addis Abeba. La Chine, important importateur de pétrole, a facilité le rapprochement et a abouti à la reprise le 10 mars des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyad. La Minute Éco, Nanit Talani.
La décision d'exploiter l'un des plus grands gisements d'uranium au monde dans le nord du Niger sera prise en 2028 après des essais qui doivent débuter en 2024, a annoncé la direction du Muraren, une entreprise du groupe français Orano ex-Areva et de l'État nigérien. L'exploitation du Muraren au sud d'Arlit aurait dû débuter en 2015, mais la chute des prix de l'uranium sur le marché mondial a gelé le projet. Ces réserves ont été estimées à environ 200 000 tonnes. Les inspecteurs onusiens ont découvert qu'environ 2,5 tonnes d'uranium naturel ont disparu d'un site libyen qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement, a déclaré mercredi l'Agence de l'énergie atomique aux États membres dans un communiqué rendu public par Reuters. L'agence mènera d'autres activités pour déterminer les circonstances du retrait de l'uranium du site qu'elle n'a pas nommé. L'absence d'informations sur l'emplacement actuel de ces sites nucléaires peut présenter un risque radiologique et des problèmes de sécurité nucléaire, ajoute le communiqué. Pour terminer, le baril de West Texas Intermediate, variété de référence américaine, a terminé mercredi à son plus bas niveau de clôture depuis fin décembre 2021, secoué par les soubresauts qui agitent le secteur bancaire et financier. Le West Texas Intermediate pour livraison en avril a lâché 5,21% pour finir à 67,61 $ après être descendu en séance jusqu'à 65,65 $. C'est une première depuis plus de 15 mois.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'AS Douane du Sénégal tombe une deuxième fois dans la Basketball Africa League.
Oui, les Sénégalais ont perdu leur deuxième sortie dans cette balle la saison 3, battue par les Rwandais de Reg 69-55. C'est la deuxième défaite pour l'AS Douane qui a encore trois rencontres pour arracher son ticket qualificatif pour les playoffs prévus à Kigali au Rwanda. En revanche, Reg aligne sa troisième victoire d'affilée et se qualifie pour les playoffs. Rien ne va aussi pour les Nigériens de Kwara Falcons, encore tombés cette fois-ci devant les champions en titre, les Tunisiens de l'US Monastir, vainqueurs 85-75.
Ligue des champions hier en Europe.
Probant vainqueur à l'aller, le Real Madrid et Naples ont logiquement validé leur ticket pour les quarts de finale avec une nouvelle victoire contre Liverpool pour les Espagnols 1-0 et une démonstration devant Francfort pour les Italiens 3-0, déjà buteur à la récidivée au stade Maradona. En inscrivant un doublé pour le Napoli, le top 8 est connu. Trois clubs italiens retrouveront deux clubs anglais, Chelsea et Manchester City, un club espagnol, le Real, une écurie allemande, le Bayern Munich, et un représentant portugais, Benfica. Le tirage des quarts est prévu vendredi.
Gianni Infantino devrait entamer ce jeudi un nouveau mandat à la tête de la FIFA.
Seul en course pour sa propre succession, l'Italo-Suisse est assuré de décrocher ce jeudi à Kigali un nouveau mandat de 4 ans. Réunis dans la capitale rwandaise pour le 73e congrès de l'instance mondiale du foot, les délégués des 211 fédérations membres n'auront qu'un choix limité, reconduire par acclamation Gianni Infantino, seul en lice comme lors de sa précédente élection en 2019, où marquait une désapprobation symbolique. Propulsé en 2016 à la tête d'une FIFA décimée par les scandales, Infantino semble donc assuré de rester au sommet du foot mondial au moins jusqu'en 2027. Les statuts de l'organisation de Zurich prévoient désormais trois mandats de 4 ans au maximum. Mais en décembre, Infantino a affirmé qu'il est toujours dans son premier mandat puisque son bail 2016-2019 était incomplet.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Une soixantaine de Burkinabés ont quitté la Tunisie et sont arrivés hier à Ouagadougou. Un retour volontaire organisé par les autorités burkinabées suite aux propos du président tunisien fin février sur la prise de mesures contre l'immigration clandestine des subsahariens dans son pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À l'aéroport de Ouagadougou, il est 17h passé de quelques minutes ce mercredi. 64 Burkinabés en provenance de la Tunisie et à bord d'un vol spécial sont arrivés dans la capitale. Les propos du président tunisien à l'égard de migrants subsahariens dans son pays ont indigné. Comme c'est le cas des ressortissants d'autres pays, ces Burkinabés sont désormais chez eux. Étudiants ou travaillant dans d'autres secteurs, ils étaient nombreux, ces Burkinabés, à regagner le pays. Rasmata Bikenga.
Suite aux propos du président, on était obligé de rester à la maison 2 semaines sans sortir. Il y a d'autres qui n'avaient pas de provisions. Ceux qui sont sortis se sont fait agresser et tout. Il y a d'autres qui n'ont pas pu terminer leur formation.
Ismaël Nangou.
Après le discours du président Kassai, les Noirs étaient devenus comme aux chasses aux peaux noires. Après le discours, il y a eu les Tunisiens rentrés chez les Noirs, comme on peut dire les Blacks plutôt, pour les agresser. Vu que le président a dit qu'il ne veut plus des Noirs, donc il a favorisé les citoyens tunisiens de rentrer chez nous, mais agresser. La donne qui a été poignardée.
Il nous a guébré.
Ça n'a pas été facile. Ce que nous souhaitons actuellement, bon, comme c'est l'avantage, ce n'est pas facile. Nous, on demande au gouvernement, s'il peut nous, en tout cas, nous soutenir pour quelque chose, pour que, en tout cas, bon, on va faire 2 jours avec, sinon ce n'est pas facile. Notre bailleur nous a cherché. Donc, bon, nous on est parti dormir à l'ambassade presque 17 jours. On a fait 17 jours là-bas. Sans manger, on ne travaille pas. Puis c'est eux-mêmes refusent pour que les Noirs travaillent avec eux. Voilà, donc en tout cas, on a passé dans une situation très difficile.
Le ministre délégué en charge de la coopération régionale, Jean-Marie Karamogo Traoré, a estimé que c'est un choc pour ces Burkinabés.
C'est très difficile de faire une situation en ce moment, mais bon, vous pouvez l'imaginer. C'est certainement des projets qui sont en stand-by. C'est certainement des gens qui travaillaient, qui ont dû suspendre pour regagner leur pays en attendant. Et je ne pense pas que dans une telle situation, on peut avoir un moral au top. Voilà, ils sont fatigués et je pense qu'ils ont besoin aussi de retrouver probablement un endroit plus calme pour pouvoir récupérer.
Selon le gouvernement, dans les jours à venir, d'autres vols de rapatriement seront organisés afin de permettre à des Burkinabés de regagner leur pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Au Cameroun, elle a donné lieu hier à une rencontre éducative entre des responsables d'entreprises de produits de grande consommation et les consommateurs. Ces derniers ont exprimé leur ras-le-bol à l'occasion de cette initiative de la Ligue camerounaise des consommateurs, la principale organisation de défense des droits de ces derniers. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Je vous crois, je suis désolé pour le désagrément.
Ne m'énerve pas, parce que ça se
dans une salle prise d'assaut par plus d'une centaine de consommateurs, une dame dénonce la mauvaise qualité des services d'un opérateur de téléphonie mobile au Cameroun. Une dénonciation partagée par le public. Stéphane Moukouri, chargé des relations publiques et presse à Orange Cameroun, clarifie les points de satisfaction des abonnés.
La première réponse était qu'un appel d'un réseau vers un autre est forcément surtaxé parce qu'il y a des frais de terminaison.
Il y a des désagréments, c'est vrai, mais c'est aussi parce que la technologie évolue. Nous sommes amenés régulièrement à faire des travaux pour augmenter la capacité, la qualité et vous offrir une meilleure expérience de nos services.
La santé des consommateurs a également été au centre des échanges. D'après les consommateurs camerounais, les produits tels que le cube magie devraient être retirés du marché car ils contiennent du glutamate de sodium qui serait cancérogène et à l'origine des maladies cardiovasculaires. Une responsable marketing de Nestlé Cameroun réagit.
Vous dites que le glutamate en lui-même, ce n'est pas un poison. Et comme disent ceux qui font dans les produits pharmaceutiques, la limite entre le médicament et le poison, c'est la dose. Donc même en matière de nutrition, l'excès nuit, comme on le dit de façon usuelle. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir la bonne information.
Après plus de 3 heures de débat, la plupart des consommateurs camerounais sont aux abois. Steve Kamgan est agent commercial.
L'électricité n'est pas constante. On coupe le matin, ça revient le soir. L'eau vient dans mon quartier 2 fois par semaine, samedi et dimanche. Ça veut dire que toute la semaine, il n'y a pas l'eau.
Même désarroi pour la jeune Leslie Beyala, étudiante.
Lorsque nous entrons dans certains supermarchés, il y a les prix qui augmentent de jour en jour. Et ce qui fait que nos revenus actuels ne nous permettent pas de nous nourrir comme nous le souhaitons.
Le représentant du ministère du Commerce, convié à cette rencontre éducative, s'est éclipsé à la dernière minute. De l'Omagilin Kamgeng, l'initiateur de la rencontre est le président de la Ligue camerounaise des consommateurs.
Désormais, un consommateur a un problème, une situation. Ensemble, on trouvera une réponse. L'essentiel, c'est le bien-être du consommateur. Pour que le consommateur ait son bien-être, il faut qu'il s'implique, soit en acceptant d'apprendre à connaître ses droits, soit en s'associant à la Ligue camerounaise des consommateurs.
Pour faire respecter les droits des consommateurs, le gouvernement a mis sur pied depuis 2016 un programme d'évaluation de la conformité des produits importés au Cameroun. D'après un responsable de la Société générale de surveillance, le pays enregistre une marge de progression de la conformité. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les tensions restent vives entre Washington et Moscou après un incident aérien. Les États-Unis accusent l'aviation russe d'avoir intercepté et percuté un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, provoquant sa chute, ce que la Russie dément. En guise de protestation, le département d'État américain a convoqué l'ambassadeur russe à Washington, tandis que l'ambassadrice des États-Unis à Moscou a adressé un message au ministère russe des Affaires étrangères. Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergei Shoigu. Pour discuter de cet incident, Eric Manirakidza a joint à Washington Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Oh, je crois que ce n'est pas un problème sérieux. Les États-Unis ont envoyé un drone pour voir tout ce qui se passe sur la mer Noire, c'est-à-dire surtout les bateaux qui vont vers la Russie, malgré les sanctions. Il y avait un avion de chasse russe qui est allé vers ce drone et il a voulu faire des difficultés pour le drone. Il a envoyé de l'essence, il a envoyé des fumées. Et finalement, par accident, il a touché le drone qui a fait tomber le drone dans la mer Noire. Il paraît que c'était pas voulu, que c'était tout à fait un accident. Donc, c'est pas un problème sérieux entre les États-Unis et la Russie.
La ligne rouge n'a pas été franchie?
Non, pas du tout. Pas du tout. Nous n'allons pas entrer en combat avec la Russie, heureusement.
Mais Washington a protesté, a convoqué l'ambassadeur russe ici à Washington et l'ambassadrice des États-Unis à Moscou a adressé un message au ministère des Affaires étrangères. Comment interpréter cette attitude?
Oui, bien sûr. Les États-Unis ont le droit tout à fait d'envoyer un drone sur la mer Noire. C'est un territoire international. Il n'a pas survolé la Russie, donc la Russie n'avait pas le droit, au point de vue de la loi internationale, d'embêter le drone. Le fait qu'ils ont fait ça, c'est un acte hostile, n'est-ce pas? C'était pas grave, mais bien sûr, les États-Unis ont bien protesté. Ils ont fait quelque chose contre un drone qui était tout à fait en règlement avec la loi internationale.
Quelle est l'importance symbolique de cet incident?
L'importance est qu'il y a une tension entre les États-Unis et la Russie et il faut être très prudent. Il ne faut pas faire des choses qui peuvent continuer vers une escalade les conflits. Donc, c'est très, très important d'être prudent et bien garder la distance entre nos forces armées russes et américaines.
Le ministre de la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, vient de déclarer que Washington va continuer de faire voler ses appareils et d'opérer partout. Le droit international le permet. On est loin de la désescalade.
Oui, c'est vrai, mais quand même, nous avons des intérêts dans la région. Et il ne faut pas oublier que la Russie est sous sanctions internationales de la part des États-Unis et des partenaires en Europe. Donc, il faut superviser pour voir que ces sanctions sont bien appliquées. Donc, c'est tout à fait notre droit de faire ça. Mais quand même, il faut être prudent pour éviter tout accident, un accident qui peut devenir sérieux.
Comment Washington peut répondre à ce genre d'incident?
Oh, plusieurs moyens, mais surtout, il faut éviter que ça tourne mal. Il faut être très prudent.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
This is the voice of America. Washington, D.C.
La phase de poule du Mondial 2026, le premier à 48 équipes, se disputera en 12 groupes de 4 sélections. L'annonce en a été faite mardi à Kigali, au Rwanda, par le Conseil de la FIFA. Cette décision fera bondir le nombre de rencontres du tournoi de 64 à 104 dès l'édition partagée entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes accéderont au 16e de finale. Pour en parler, Yacouba Ouédraogo a joint à Casablanca au Maroc le consultant sportif Amine Birouk.
On penchait au tout début vers une formule de 16 groupes de 3 équipes, ce qui aurait gardé le même timing par rapport aux précédentes Coupes du Monde à 32 équipes. Mais visiblement, la FIFA a été alléchée, attirée, séduite par ce qui s'est passé au Qatar avec des différents rebondissements lors des dernières journées avec des matchs qui se disputent à la même heure. Et visiblement, sa task force a voulu implémenter la compétition qui passe à 39 jours, qui est avec augmentation des nombres de matchs, avec un tour supplémentaire pour les 32 équipes qui passeront le cut. C'est également les sponsors qui vont certainement tirer un maximum de bénéfices en termes de visibilité. C'est les droits télé. C'est une affaire à la fois sportive et commerciale. Et la FIFA a toujours su allier rentabilité sportive et rentabilité commerciale dans la Coupe du Monde depuis l'augmentation du nombre de sélections. On est passé de 16 à 24 en 82, de 24 à 32 en 98. Et aujourd'hui, on va franchir un cap supplémentaire à l'occasion d'une Coupe du Monde qui sera unique puisqu'elle sera organisée conjointement par 3 pays, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique.
L'Afrique comptera 9 représentants à ce mondial-là. En quoi elle peut profiter justement de ce nouveau format?
Tout d'abord, augmentation du nombre de participants. On retrouvera entre 9 et 10 sélections sur 54 pays affiliés à la Confédération africaine de football. Donc, visiblement, moins de contraintes en termes de tours de qualification, plus de présence de sélections africaines et proportionnellement, plus de chances de briller. Les sélections africaines étaient au nombre de 5 lors des dernières éditions, notamment au Qatar, et vous avez pu constater que 2 s'étaient extirpées du cap du premier tour et que l'équipe du Maroc était même allée au-delà de toute espérance en demi-finale. Ce n'est que bénéf en termes de présence sportive, de visibilité pour les sélections africaines.
Amine Birouk, consultant sportif. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.